RFI. Grand reportage.
Nous partons dans le centre de l'Afghanistan, à Deikoundi, le territoire historique des Hazaras, qui sont principalement chiites et qui représentent entre 10 et 20% des 38 millions d'habitants en Afghanistan. Une femme a été récemment nommée gouverneure de cette province, réputée pour son ouverture d'esprit. Alors que les pourparlers de paix entamés en septembre 2020 piétinent, à Deikoundi, on s'inquiète d'un retour au pouvoir des talibans qui tentent depuis 2 ans maintenant des incursions dans cette province paisible. Un grand reportage de Sonia Ghezali avec la collaboration de Shayeb Wala et de Mukhtar Amircha.
Deikoundi est au cœur du Hazarajat, le territoire des Hazaras en Afghanistan. Pour atteindre sa capitale provinciale Nili, il faut quitter la vallée de Bamiyan, perchée à plus de 2500 mètres d'altitude. Passer devant les immenses niches vides dans la roche rose qui abritaient autrefois Salsa, les Chamama, les Bouddhas de Bamiyan, dynamités par les talibans en 2001. Il faut poursuivre ensuite sa route à travers l'Hindou Kush sur une piste qui serpente à flanc de montagne, étroite et glissante à cause de la neige qui la recouvre. À Nili, il est impossible de passer à côté d'une militante de la société civile, une femme qui a décidé d'aller contre les traditions pour s'émanciper et offrir un nouveau modèle féminin. On la retrouve au volant de son 4x4 sur les chemins de terre de la capitale provinciale.
Je suis Guljan Samar. Je suis diplômée de droit et de sciences politiques. Je travaille à Deikoundi, dans une organisation non gouvernementale. Je viens en aide aux femmes et aux victimes de la guerre.
La trentaine, élégante, un pantalon à pinces et un anorak cintré, Guljan a brisé les tabous et a imposé son mode de vie dans la commune rurale.
Les choses changent. Fin 2014, quand j'ai commencé à conduire dans la ville, la police, des gens m'arrêtaient pour me demander l'heure, pour me poser toutes sortes de questions. Ils essayaient de m'embêter, de me mettre mal à l'aise. C'était comme ça partout dans Nili. Mais aujourd'hui, vous voyez comment les choses ont changé. Vous savez, le gouvernement a embauché 3 chauffeurs pour ma sécurité, pour me conduire où je le souhaite. Mais jamais je ne les laisse me conduire dans Nili. Je conduis toujours moi-même.
Elle affirme qu'avec elle, 2 autres femmes ont obtenu leur permis de conduire dans la bourgade et que 5 autres conduisent sans permis. Isolée, Deikoundi n'a pas échappé aux règles strictes du régime obscurantiste et ultra-conservateur des talibans entre 1995 et 2001.
Après la chute du régime des talibans, les universités ont rouvert et nous avons pu aller étudier à nouveau. Puis, les étudiants qui étaient partis étudier dans d'autres provinces sont revenus ici. Ça a été mon cas et celui de plusieurs autres femmes qui ont été autorisées par leur famille à étudier à l'université. On s'est alors battu pour nos droits, pour notre liberté. Et aujourd'hui, les choses sont différentes, grâce à Dieu. On a obtenu des postes dans des bureaux, dans l'administration. Petit à petit, le visage de notre province a changé. Le meilleur exemple ici, c'est le district de Charestan. Il reste certains villages très traditionnels, mais l'ensemble du district est ouvert d'esprit, bien plus qu'ici à Nili. Les filles là-bas jouent au football, elles jouent aux échecs aussi, elles font du vélo, jouent au volleyball, elles conduisent des voitures. Ce n'est pas le cas à Nili encore.
Nili est nichée dans une vallée de montagnes arides couverte de neige en hiver et qui se pare d'amandiers au printemps. La vente du fruit à la coque étonnamment délicate constitue l'un des revenus majeurs de la province très pauvre. Au sein de l'ONG locale pour laquelle elle travaille, Guljan a pour mission de sensibiliser la population aux droits des femmes et à la santé. Elle en a fait sa raison d'être, car dans de nombreux villages, des traditions néfastes continuent d'assujettir les femmes à la misère, à la souffrance. Les mariages forcés, les mariages de mineurs, la tradition du bad, qui consiste à donner l'une de ses filles à une famille avec qui l'on souhaite régler un conflit, toutes ces traditions perdurent.
Quand je vais en dehors de Nili, je marche. Je ne prends aucun garde du corps avec moi. Je vais à pied dans les villages reculés, dans les montagnes qui ne sont pas accessibles en voiture, pour rencontrer les femmes et écouter leurs problèmes. Je dois vous dire que souvent, lorsque je m'adresse là-bas à des hommes qui sont rassemblés, et qui sont parfois une centaine, parfois mille, eh bien ils refusent de m'écouter ou de me regarder, parce que je suis une femme seule, sans moharam, sans chaperon, comme le veut la tradition. Certains bouchent leurs oreilles avec leurs doigts pour ne pas entendre ma voix. D'autres couvrent leurs yeux avec leurs mains pour ne pas me voir, parce que je suis une femme seule et non mariée. Ça vous donne une idée de la situation hors de Nili, la capitale provinciale. Cela montre à quel point les femmes qui travaillent hors de chez elles sont mal vues. Nous avons enregistré plusieurs cas de suicide chez les jeunes filles dans les districts de Patou, de Kejran et Naoumesh. Ce sont des districts où la sécurité est très mauvaise et où les gens sont très traditionnels et n'ont aucune ouverture d'esprit, surtout en ce qui concerne les femmes.
Daikundi, comme de nombreuses provinces en Afghanistan, n'est pas homogène en termes de développement et d'émancipation des femmes ni en termes de sécurité. La province est en majorité peuplée de Hazara, que l'on dit descendants des soldats de Genghis Khan, l'empereur mongol du XIIIe siècle. Les Hazara constituent la minorité chiite en Afghanistan. À Daikundi, ce sont dans les districts qui bordent au sud les provinces à majorité pachtoun et sous forte influence talibane qu'il y a des problèmes de sécurité. Alidat vit près d'un poste de police dans l'un de ces districts qui borde la province Uruzgan. Régulièrement, des combats éclatent entre les talibans et les forces gouvernementales. Ce fut le cas il y a quelques mois.
Les talibans étaient 400 quand ils nous ont attaqués. Nous sommes 7 maisons près du poste de contrôle de la police. Nous savions que si les talibans gagnaient, ils s'en seraient pris aux maisons près du poste. Ils auraient tué toutes les familles. On n'a pas eu le choix que de combattre aux côtés de la police. Notre maison est entourée de montagnes, c'est une zone dangereuse. On vivait en paix jusqu'à il y a 2 ans. Des postes de contrôle de la police ont été mis en place dans tout le district et c'est à ce moment que les combats ont commencé. J'étais avec ma fille et mon fils dans la maison quand les combats ont commencé. On a combattu 2 jours contre les talibans. La 3e nuit, les combats se sont intensifiés. Ma fille a été blessée à la main. Elle perdait beaucoup de sang. La police est venue et les agents m'ont dit qu'il ne fallait pas que je bouge de chez moi parce que les combats n'étaient pas finis dans la zone. Mais je leur ai dit qu'il en était hors de question. Il était 10 heures du soir. Nous avons réussi à rejoindre la capitale provinciale par nos propres moyens.
Goulara, sa fille, est à ses côtés. La jeune femme a 25 ans. Elle porte une longue robe à fleurs bleues et à strass orange. Sur sa tête, un voile blanc à perles bleues turquoise. Elle retire le gant qui enveloppe sa main gauche. Elle est en train, en fait, de montrer sa main qui porte en fait deux grosses cicatrices, une sur le dessus du poignet, une autre à l'intérieur du poignet, une cicatrice très profonde. Et elle dit qu'en fait, elle ne peut plus bouger sa main. Korn namekona. Elle ne peut même pas prendre en fait un verre d'eau. Goulara a combattu contre les talibans auprès de son père durant près de 20 heures.
Quand les talibans étaient tout proches, mon frère est allé dans l'une des tours de guet de notre maison et mon père et moi sommes allés dans l'autre. Les combats n'arrêtaient pas et j'ai été blessée. À partir de 20h jusqu'à 23h, nous avons combattu les talibans. J'ai reçu une balle dans la main. J'ai cru que mon heure était venue. J'attendais la mort. On a entendu un hélicoptère voler au-dessus de nous. Les tirs se sont calmés et mon père m'a emmené en ville à l'hôpital.
La jeune femme était préparée au pire, dit-elle.
Notre maison est entourée de pachtounes, c'est pour ça que mon père m'a entraînée au tir. On s'attendait à ce qu'un jour, j'ai besoin d'utiliser une arme. Il m'a entraînée durant plusieurs jours à partir de mes 20 ans. Et il m'a dit, il faut que tu saches t'en servir, parce qu'un jour, je ne serai peut-être pas là pour vous protéger.
Le district est partagé entre des Hazaras chiites et des Pashtuns sunnites. Les tensions entre les deux communautés n'ont fait qu'augmenter au cours de ces dernières années, d'autant que sur la route qui relie Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, à Daïkoundi, les talibans, en majorité pashtuns, sèment la terreur. Ismaël Sanjar conduit l'un des minibus qui emprunte chaque jour cette route dangereuse. Il doit traverser la province du Wardak et passer des barrages tenus par les talibans.
Quand je prends à bord des gens ordinaires, des étudiants, souvent je préviens leurs parents, leurs familles, que je ne peux rien garantir. Je fais de mon mieux. Je ne peux pas leur dire qu'ils arriveront sains et saufs à destination. Quand j'arrive dans la zone, je sens le danger et je commence à être très stressé. Je n'arrête pas de penser au risque. Je me dis, et si les talibans arrêtent la voiture? Et s'ils kidnappent mes passagers? Je pense que les talibans font de la discrimination religieuse. Ils nous arrêtent, ils nous kidnappent parce que nous sommes chiites. C'est le cas à Maïdan Wardak, mais aussi sur les autres axes routiers où ils s'en prennent aux Hazaras. À Kaboul, les mosquées chiites sont attaquées parce qu'elles sont chiites. La plupart du temps, les talibans kidnappent sur les routes les gens qui travaillent pour le gouvernement et les gens qui y étudient. Les gens qui partent de Daïkoundi sont pauvres. Ils sont habillés très modestement. Mais les personnes qui partent de Kaboul à destination de Daïkoundi, je leur dis de s'habiller avec des vêtements très discrets. Mais la plupart du temps, les passagers le savent très bien. Ils portent de vieux vêtements, des vêtements sales pour avoir l'air pauvre, pour avoir l'air de personnes très modestes, pour ne pas avoir l'air d'être riche ou de travailler pour le gouvernement.
Les talibans ont envoyé des lettres aux familles pour réclamer des rançons.
Un jour, ils ont arrêté ma voiture. Ils ont retenu 3 passagers. Ils ont réclamé 3 millions d'afghanis au total, 1 million pour chaque otage. Ils les ont gardés 8 jours dans leur prison. Les talibans ont envoyé des lettres aux familles pour réclamer des rançons. Ils leur répétaient qu'ils allaient les tuer si elles ne payaient pas ces rançons. Finalement, les familles ont vendu leur voiture, leur terre. Elles ont chacune rassemblé avec beaucoup de difficulté la somme d'un million d'afghanis et elles ont donné l'argent aux talibans qui ont libéré les 3 hommes pris en otage.
Le frère d'Hassan n'a pas eu la chance d'être libéré. L'homme de 29 ans se remémore les faits.
Mon frère était policier. Il s'est rendu par la route dans la province de Kandahar pour aller acheter une voiture sur un marché spécialisé qui vend des véhicules japonais. Sur le chemin du retour, il a été arrêté à un barrage par des talibans qui portaient l'uniforme de l'armée afghane. Ils lui ont dit qu'ils voulaient vérifier son identité. Ils lui ont demandé s'il travaillait pour les services de sécurité. Alors mon frère a nié. Il a expliqué qu'il était simplement allé acheter une voiture à Kandahar. Il y avait 2 autres personnes avec mon frère ce jour-là. Ces 2 hommes ont été relâchés. Les talibans ont arrêté mon frère Hussein et l'ont emmené dans un village où ils l'ont battu. Ils l'ont torturé pour lui faire avouer qu'il travaillait pour l'État. Mais il a continué à nier. Ils ont fini par appeler le poste de police de Daïkoundi en se faisant passer pour des agents des services de renseignement qui recherchaient des informations sur un conducteur suspect qu'ils disaient avoir arrêté. La personne au bout du fil a confirmé que mon frère était bien un policier à Daïkoundi. Après ça, les talibans ont tué mon frère.
Ils
Hassan a abandonné ses études à l'université de Kaboul. Il est chauffeur de bus dans Daikundi et gagne une centaine d'euros par mois.
Nous sommes 9 personnes, les 4 enfants de mon frère assassiné, ma mère, mon épouse et mes 2 enfants. Et je suis le seul à subvenir aux besoins de tout le monde. Après le meurtre de mon frère, je ne suis plus jamais retourné à Kaboul. Pendant un moment, j'ai travaillé à Bamiyan pour un service régional qui dépendait du ministère de l'économie en tant que chauffeur. Mais ma mère m'a demandé d'arrêter parce que c'est un travail pour le gouvernement et elle avait peur que je finisse comme mon frère. Elle m'a demandé d'arrêter mes études à l'université de Kaboul pour les mêmes raisons.
L'assassinat de son frère a traumatisé toute la famille et profondément modifié ses habitudes. La peur règne. Pour les Hazaras de Daikundi et plus largement du Hazarajat, les négociations entre les talibans et le gouvernement n'augurent rien de bon. Les forces étrangères doivent rester, supplie presque le gouverneur du district de Nili. Nous n'aspirons pas au même mode de vie que les talibans, dit-il.
Un grand reportage de Sonia Ghezali avec la collaboration de Chazeb Walla et de Mukhtar Amircha. Réalisation Pierre Chaffanjon.